Merci d'écouter France Culture, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier.
Alors vous venez aujourd'hui avec une question, 20 ans après la guerre du Kosovo, à qui profite l'indépendance?
Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Et vous l'entendiez hier, c'était il y a 10 ans l'indépendance, il y a 20 ans la guerre et aujourd'hui peut-être une normalisation internationale. Bonjour Jean-Arnaud Derrins.
Bonjour.
Rédacteur en chef du Courrier des Balkans, merci d'être au téléphone avec nous entre Pristina et Belgrade. Je le disais, une guerre, 13 000 morts, des tueries, une guerre intense non réglée avec la Serbie dont le Kosovo était une province. Mais si les tractations qui ont lieu en ce moment aboutissent, elles pourraient ouvrir la voie à une pleine reconnaissance du Kosovo dans le monde par la Russie, la Chine et d'abord la Serbie. Ensuite, pour les deux entités, elles pourraient aussi accélérer la procédure d'adhésion à l'Union européenne, ce qui permettrait, troisièmement en retour à l'Union, de tenir les délais du plan d'intégration de 6 pays des Balkans lancé le mois dernier en visant 2025, gagnant-gagnant-gagnant comme on dit. Alors y aura-t-il une reconnaissance pleine et entière contre une relance de l'adhésion? Pas si simple, apparemment la Serbie ne veut pas parler d'un marchandage territorial, la question du Nord à majorité serbe reste un point chaud et l'attitude de l'exécutif kosovar a fini récemment par irriter l'Union européenne et les États-Unis, un peu comme la Macédoine dont on parlait. Il s'oppose notamment à la validation d'un tribunal spécial pour juger les crimes de guerre. S'agit-il d'une pression de trop sur un pays trop fragile? Jean-Arnaud Derrins, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, ce tribunal spécial, c'est une instance dont on sait qu'elle est située à La Haye. Les anciens combattants disent qu'il est dirigé contre l'Ucheka exclusivement, cette armée de guérilla. On connaît son mandat exact?
Alors la chambre spécialisée, c'est comme cela qu'elle s'appelle pour le coup, est une conséquence du rapport rendu public en 2010 par le député suisse Dick Marty qui a mis au grand jour ce que beaucoup de gens savaient ou soupçonnaient depuis le départ, à savoir que le noyau dirigeant de l'Ucheka, notamment l'actuel président de la République Hashim Thaçi, était directement lié dans une série de crimes commis durant la guerre. Alors le rapport de Dick Marty pointe notamment les kidnappings suivis de déportations en Albanie et d'assassinats de nombreux civils serbes. Il y a à peu près 500 civils serbes qui sont toujours portés disparus au Kosovo. Certains de ces civils auraient même pu, selon le rapport de Dick Marty, alimenter un trafic d'organes. La chambre spécialisée est placée sous l'autorité du système judiciaire du Kosovo, mais elle est délocalisée à La Haye, aux Pays-Bas, et elle sera composée exclusivement de juges et de procureurs internationaux. Elle doit juger ces crimes de guerre commis notamment contre des civils serbes ou également roms, mais aussi les assassinats politiques qui ont été commis contre des opposants albanais, concrètement contre des militants, des cadres de la Ligue démocratique du Kosovo,
de Jugova,
assassinats qui ont été commis aussi bien durant la guerre qu'à l'issue de celle-ci dans les mois qui ont suivi, quand le Kosovo était placé sous protectorat international des Nations Unies.
Et alors justement, ce tribunal doit publier les premières inculpations dans quelques jours. Je crois qu'il y a eu deux fois le report du vote de validation au Parlement du Kosovo. Pourquoi est-ce que ça bloque autant? C'est cette fameuse république des commandants, comme on dit, les trois têtes du pays, président, premier ministre, président du Parlement, qui sont des anciens commandants de la guérilla.
Et qui pourraient tous les trois être inculpés. Voilà. Alors on ne sait pas, pour être honnête, on ne sait pas exactement quand les inculpations viendront. On suppose qu'elles sont très prochaines, mais je pense qu'il faut rester prudent. On ne connaît pas non plus, bien sûr, la liste des gens qui pourraient être inculpés, mais a priori, ces inculpations pourraient frapper très haut au sommet de l'actuel État du Kosovo. Et c'est la majorité dirigée par Hashim Thaçi, par Kadri Veseli, le président du Parlement, par le Premier ministre Ramush Haradinaj, c'est cette majorité qui a essayé de bloquer encore autour de Noël l'entrée en fonction du tribunal. Et là, il y a eu effectivement de fortes pressions de l'Union européenne et des États-Unis pour permettre que la Cour fonctionne, pour empêcher le Parlement du Kosovo de bloquer son entrée en fonction.
Oui, c'est une situation assez tendue. D'ailleurs, ce Premier ministre Ramush Haradinaj, qui avait été arrêté en France, cette fois-ci à cause d'inculpations de la part de la Serbie. Alors, qu'est-ce qui pourrait apporter ce tribunal aujourd'hui? Une crédibilité internationale supplémentaire? Une pacification du pays? Ou au contraire, l'explosion complète, là? Parce qu'on voit qu'il y a quand même une situation très compliquée.
Oui, écoutez, je crois que pour le coup, il y a des enquêtes d'opinion très convergentes qui montrent que la grande majorité des citoyens du Kosovo soutiennent le tribunal. Bien évidemment, il y a les anciens combattants, il y a quelques cercles nationalistes, il y a l'entourage des potentiels inculpés, mais l'immense majorité de la population a envie pour le coup que le Kosovo parvienne à tirer au clair ces terribles histoires issues du temps de la guerre. Alors bien évidemment, ce sera compliqué parce que l'enjeu, c'est finalement de reconnaître que le Kosovo a à la fois était soumis au régime de Belgrade, a connu une lutte de libération, mais que les combattants de la guérilla ont eux aussi commis des crimes. C'est donc le narratif, si vous voulez, de la guerre qui sera certainement au moins en partie à réécrire, mais je crois qu'aujourd'hui, la société du Kosovo est certainement prête à cela. J'ai envie de dire que la société est peut-être mieux prête à cela que la classe politique.
À partir de là, alors il y a deux questions. Est-ce que ce tribunal pourra œuvrer réellement avec le personnel politique en place? Quel en sera le prix intérieur? Et puis, est-ce que ça pourrait être effectivement la porte d'une normalisation? Et dans quelle mesure ça donnerait un appui supplémentaire pour une reconnaissance, et notamment vis-à-vis de la Serbie?
Alors, je pense que ce tribunal, s'il parvient à faire son travail, permettra effectivement à la société kosovare, je dirais, de régler les comptes avec elle-même, avec son passé. Ensuite, politiquement, il y aura bien évidemment des moments difficiles, des moments de tension. Après, je ne suis pas sûr que cela ait des conséquences directes dans les relations avec la Serbie. Pour être honnête, je ne suis même pas certain que la Serbie ait très très envie que le tribunal fonctionne, parce que si le tribunal fonctionne, c'est aussi un très vaste réseau de complicité qui va apparaître, qui risque d'être mis à jour, un réseau de complicité qui pourrait impliquer et les services secrets serbes et aussi certains services occidentaux. Donc les dossiers qui sont a priori dans les mains du tribunal sont des dossiers incontestablement très compliqué, mais je pense qu'il est temps que le Kosovo tourne la page.
Et alors précisément, Hashim Thaçi avait donné un grand entretien à l'AFP là début février, où il parlait de cette année 2018, où il voudrait un accord historique avec la Serbie. Là, il ne parlait pas forcément du tribunal, mais justement de la fortification, on va dire, et de du dessin des frontières extérieures, notamment dans cette situation dans le nord du Kosovo à majorité serbe, qui n'est toujours pas réglée. Est-ce que c'est pas ça le test à venir, plus que ce tribunal?
Je crois que le tribunal est vraiment essentiel. Ensuite, il y a un processus de dialogue qui est mené depuis 2011 à Bruxelles, sous l'égide de l'Union européenne, entre Belgrade et Pristina. Il y a des déclarations comme quoi, effectivement, les deux chefs d'État, Hashim Thaçi et son homologue serbe, Aleksandar Vučić, voudraient effectivement terminer ce travail prochainement. Je pense pour le coup qu'il faut être extrêmement prudent. On verra bien, je crois qu'il est difficile de faire trop d'hypothèses. L'idée d'une reconnaissance de l'indépendance du Kosovo par la Serbie, à mon avis, n'est toujours pas à l'ordre du jour à court terme. Néanmoins, la Serbie, qui est beaucoup plus avancée que le Kosovo, pour le coup, dans la voie de l'intégration européenne, va arriver à cette question, puisqu'il semble difficile d'imaginer que la Serbie puisse intégrer l'Union européenne sans qu'on sache quelles sont les frontières du pays. Est-ce que oui ou non, la Serbie considère toujours que ses frontières incluent le Kosovo?
Oui, sachant que pour l'instant, la constitution serbe écrit que effectivement le Kosovo est partie intégrante du territoire de la Serbie. Est-ce que dans les facteurs favorables, on pourrait dire, à une normalisation des relations globales entre Serbie et Kosovo, il n'y a pas ces deux acteurs dont vous venez de parler, Hashim Thaçi et également Aleksandar Vučić, qui sont des anciens, tous les deux, de la guerre, l'un propagandiste, l'autre plutôt militaire, mais qui sont aussi des hommes de pouvoir et rudement accrochés au pouvoir. Peut-être ils jouent leur avenir politique là-dessus, sur une normalisation.
Alors écoutez, je pense qu'Hashim Thaçi d'abord devra, attend de voir si oui ou non il sera inculpé. Je pense que pour lui, la première échéance, c'est vraiment le tribunal. Dans le cas d'Aleksandar Vučić, le Kosovo, c'est le meilleur argument rhétorique dont il dispose, puisque le régime d'Aleksandar Vučić est de plus en plus autoritaire, de plus en plus corrompu, de plus en plus autocratique, mais dans le même temps, cet Aleksandar Vučić jouit d'une complaisance un petit peu étonnante de la part des dirigeants européens, parce qu'il se montre prêt à des compromis sur le Kosovo. Donc, pour Vučić, le Kosovo est un excellent argument dans sa négociation permanente avec les internationaux et notamment avec les Européens. Mais néanmoins, si cette stratégie européenne, qui envisage la possible adhésion de la Serbie en 2025 devait se concrétiser, il faudra bien un moment que la question soit tranchée.
Oui, donc ça pourrait être quand même un facteur d'accélération. Et dernière chose, du côté du Kosovo, on a vu ces deux derniers jours, juste après la déclaration d'indépendance, des déclarations assez étonnantes peut-être de Hashim Thaçi, qui voulait d'un côté une armée kosovare multiethnique et qui de l'autre rencontrait le président albanais, là, Edi Rama. Tous les deux ont parlé, ou Edi Rama seulement, d'un président unique pour les deux pays.
Alors, la question de l'armée, tout d'abord, le Kosovo, effectivement, n'a pas d'armée. Il faut rappeler qu'il y a toujours 2 ou 3 milliers d'hommes de l'OTAN, de la mission KFOR, qui sont toujours présents dans le pays. Et lors de la proclamation d'indépendance, en 2008, il y a 10 ans, il n'était pas question que le Kosovo obtienne une armée. Donc, le Kosovo insiste sur ce point. On verra bien s'il obtiendra gain de cause ou pas. Sur l'autre aspect, celui des relations avec l'Albanie, c'est effectivement le Premier ministre albanais, Edi Rama, qui s'est rendu aux commémorations du 10e anniversaire et qui, dans son discours devant le Parlement, dimanche dernier, a dit que dans 10 ans, le Kosovo et l'Albanie seraient unifiés, auraient un président commun. Cette question d'une éventuelle unification nationale entre le Kosovo et l'Albanie est une question qui est posée sur la table des Balkans depuis déjà un certain temps. Les deux gouvernements se sont rapprochés, je pense que ça, c'est tout à fait positif qu'il y ait dans toute une série de domaines, de l'économie jusqu'à l'éducation, une plus forte collaboration entre deux pays qui sont majoritairement peuplés d'Albanais, l'un comme l'autre. Après, la question d'une éventuelle unification politique entraînerait bien évidemment beaucoup de conséquences dans les Balkans, même si il est, je crois, difficile de dire qu'on l'exclut a priori. Si l'on considère que le Kosovo est un pays souverain, il peut décider a priori de se réunifier avec un autre État.
On va suivre ça. Merci en tout cas d'avoir été au téléphone. Jean-Arnaud Derain, rédacteur en chef du Courrier des Balkans.